Le journal d'Alexandre Rosset.
Bonjour, le jour J approche pour Elisabeth Baumschneider. Le Parlement va élire mercredi les deux nouveaux conseillers fédéraux. Et la candidate jurassienne pourra notamment compter sur le soutien d'une délégation officielle d'une quarantaine de personnes. Un dossier épineux figure au menu du conseil de ville de Moutiers. Le législatif prévotois se prononcera ce soir sur le budget 2023. Un budget bénéficiaire, mais seulement grâce à une hausse de la quotité d'impôt, la population aura le dernier mot. Chaque Delémontain doit pouvoir voter en toute connaissance de cause. Céline Robert-Charulinder demande d'intégrer le langage simplifié dans les messages adressés à la population. L'élu de l'alternative de gauche a déposé une motion au conseil de ville. Le ciel restera partagé entre nuages et éclaircies cet après-midi. Quelques averses ne sont pas exclues par endroits. Il fera frais, pas plus de 6 degrés en plaine et 2 dans les franches montagnes. Jour J, moins 2, avant un événement peut-être historique pour le Jura. Les chambres fédérales éliront mercredi les successeurs de l'UDC Uli Maurer et de la socialiste Simonetta Sommaruga au gouvernement. Dans le canton, les projecteurs seront braqués sur Elisabeth Baumschneider. Outsider face à la Baloise Eva Herzog, la sénatrice PS Franc-Montagnard a vu sa cote grimper ces derniers jours. Une accession au Conseil fédéral est désormais jugée possible par les observateurs. L'État jurassien est également sur le qui-vive. En vue de cette élection, une délégation officielle de 40 personnes sera sous la coupole mercredi. Les préparatifs doivent se faire quelque peu dans l'urgence. Le point avec le délégué cantonal aux affaires fédérales, Julien Hochstetler.
Déjà, il y a la journée du 7 qui mobilise beaucoup la chancellerie, plusieurs services de l'État, évidemment le gouvernement qui sera le 7 incorporé du côté du palais fédéral. Et puis, en cas d'élection, puisque c'est possible aujourd'hui, il faut organiser une grande fête qui aura lieu le 15 décembre. Donc, vous voyez qu'on a peu de temps pour l'organiser ici dans le Jura. Et donc, on est évidemment déjà en train de commencer les préparatifs pour ne pas être pris de court au cas où Elisabeth Baumschneider devait être élue.
Quel sera le rôle de cette délégation officielle jurassienne? C'est vrai que c'est avant tout du soutien. Néanmoins, elle a quelque chose à jouer dans cette élection?
Il y a un certain nombre d'éléments protocolaires où, après l'élection de la conseillère fédérale, si ça devait être Elisabeth Baumschneider, il y a une rencontre formelle, officielle, prévue dans le protocole entre l'élu et la délégation cantonale, avec évidemment remise d'un bouquet de fleurs et puis félicitations officielle. Donc il y a un rôle protocolaire, je dirais, mais c'est surtout effectivement un accompagnement pour la candidate.
Tout se joue évidemment dans la campagne de la candidate, mais peut-être que vous avez eu, vous ou les élus jurassiens, un rôle politique à jouer. Est-ce que c'est le cas dans cette campagne?
Il est relativement limité parce que les chambres fédérales, c'est un microcosme qui est assez tourné sur lui-même, sans que ça soit négatif. Mais je veux dire, ils décident entre eux. Et puis évidemment, les interventions extérieures, il ne faut pas qu'il y en ait trop. Il y a surtout, je dirais, un travail d'accompagnement en matière de préparation sur les dossiers, de soutien sur les dossiers, de pouvoir peut-être lui donner quelques chiffres sur son action au gouvernement, etc. etc. Mais l'influence politique des cantons, à part quelques contacts personnels, évidemment, que peuvent avoir des ministres, par exemple, avec des élus fédéraux, je pense qu'on peut dire qu'elle est relativement limitée. C'est une influence qui ne fait pas forcément la différence à la fin.
Des propos recueillis par Raphaël Chalverin. Et les élections de nouveaux ministres restent relativement rares en Suisse. En 10 ans, il n'y en a eu que 3. Et l'élection de Guy Parmelin en 2015 était intégrée à la réélection de l'ensemble du gouvernement, tout comme celle d'Alain Berset en 2011. Berne est donc en effervescence à 48 heures de l'événement. Notre correspondant parlementaire nous dévoile le programme des prochaines heures, Serge Jubin.
La courte campagne des 4 candidats officiels en lice connaîtra un dernier temps fort, peut-être décisif, demain après-midi dans les salles du Palais fédéral. Ils seront entendus et peut-être un peu bousculés par les parlementaires des autres formations politiques. Ce sont ces fameux hearings. C'est là que les parlementaires encore indécis se forgeront leur opinion. Mercredi matin, 7 décembre, début de la séance d'élection de l'Assemblée fédérale à 8h tapante, lancée avec la clochette par le président grison Martin Candinas, il s'exprimera en bonne partie en romanche. L'Assemblée fédérale réunit les 200 élus du Conseil national et les 46 du Conseil des États. La première demi-heure, et peut-être un peu plus, sera consacrée à l'hommage rendu aux deux conseillers fédéraux qui s'en vont, avec les derniers discours d'Uli Maurer et de Simonetta Sommaruga dans cet ordre.
Ce sera ensuite au tour de l'élection des deux nouveaux conseillers fédéraux. On retrouve Serge Jubin.
Élection séparée. D'abord, le successeur d'Ueli Maurer, avec deux candidats officiels de l'UDC, Albert Rusty le Bernois, grandissime favori, et le Zurichois Hans-Uli Vogt. L'élection devrait se faire en un tour et Albert Rusty obtenir la majorité absolue. Il sera ainsi conseiller fédéral vers 9h-9h15. Suite immédiatement l'élection de celle qui s'installera le 1er janvier dans le fauteuil libéré par Simonetta Sommaruga. La logique voudrait que l'élection se fasse aussi en un tour, les parlementaires choisissant entre Eva Herzog, favorite, et Elisabeth Baumschneider. À 9h45, 10h, tout devrait être dit. Puis les élus prêteront serment. Une double élection, express et sans histoire, c'est très exactement ce qui s'est passé le 5 décembre 2018. Lors de l'élection de Viola Amherst et de Karine Keller-Sutter, les deux favorites ont passé au premier tour. 148 voix sur 244 pour Viola Amherst, 154 pour Karine Keller-Sutter. Vous souvenez-vous de leur colistier ? Tout le monde a oublié l'Uranaise Heidi Skragen, pour ce qui était encore le PDC, et l'Obwaldien Hans Vicky au PLR. Il siège pourtant au Conseil des États. L'élection d'Ignacio Cassis en septembre 2017 avait été un tout petit peu plus ouverte. Il avait fallu deux tours de scrutin, parce que le PLR avait présenté un ticket à trois, avec les romans Isabelle Moret et Pierre Maudet. Mais à la fin, là encore, le favori tessinois l'avait emporté haut la main.
Et notez que RFJ vous proposera une émission spéciale en direct de la place fédérale à Berne. Ce sera donc mercredi dès 6h. La police cantonale vaudoise a mené un vaste coup de filet dans le domaine de la cyberpédocriminalité. Elle indique aujourd'hui avoir interpellé 96 personnes ayant téléchargé du contenu à caractère pédophile au terme d'une opération d'envergure. Deux individus ont été placés en détention provisoire. L'hôtellerie suisse a vécu un bel été. Le nombre de nuitées hôtelières a progressé de près de 22% au cours de la saison estivale en comparaison annuelle. L'Office fédéral de la statistique l'a indiqué ce matin. De mai à octobre, le secteur a enregistré 22,4 millions de nuitées, soit 4 millions de plus qu'en 2021. Le résultat reste toutefois légèrement inférieur à l'année 2019. Le conseil de ville de Moutier se réunit ce soir pour une séance qui sera dédiée au budget 2023 de la commune. Un budget qui prévoit un bénéfice, une fois n'est pas coutume, c'est que les autorités n'avaient pas le choix. Olivier Zano.
3 ans, c'est le délai légal qui a été imposé par le canton de Berne à la ville de Moutier pour retrouver des prévisions budgétaires positives. 3 ans depuis ce fameux découvert au bilan, effectif depuis le 31 décembre 2019. On y est, il a fallu prendre le taureau par les cornes pour commencer à combler le déficit communal qui s'élève aujourd'hui à près de 3 millions de francs. Voilà donc un budget 2023 qui prévoit un excédent de revenus d'1,1 million de francs, montant qui servira intégralement à boucher une partie du trou creusé depuis plusieurs années. Ça ne s'est pas fait tout seul, de nombreuses mesures ont été prises pour améliorer la situation. Mais surtout, ce résultat positif ne sera possible qu'avec une augmentation de la quotité d'impôt d'un dixième de point, de 1,94 à 2,04. Dans tous les cas, c'est le peuple qui aura le dernier mot. Une votation est prévue au début de l'an prochain, mais la décision du Conseil de ville de Moutier ce soir donnera déjà un signal fort. En cas de refus du budget, les dépenses communales seront limitées au strict minimum jusqu'à l'été. Idem si la hausse des impôts devait être refusée par le peuple dans quelques semaines. Il faudrait alors présenter une nouvelle version du budget avec des économies pour plusieurs centaines de milliers de francs à trouver ailleurs, dans les prestations offertes par la commune notamment.
Le conseil de ville de Moutier, c'est ce soir à 19h30 et retrouvez toutes les décisions sur notre site internet et demain dans nos différentes éditions. Les personnes qui ont du mal à lire doivent pouvoir comprendre les messages du conseil de ville qui sont envoyés avant une votation. Céline Robert-Charulinder a récemment déposé une motion en ce sens auprès du législatif de Delémont. L'élue de l'alternative de gauche salue les efforts de vulgarisation déjà fournis, mais elle souhaite que la ville fasse un pas supplémentaire en intégrant le langage simplifié, aussi appelé FALC pour français facile à lire et à comprendre. Les précisions de Nicolas Meusier.
La motion découle d'un constat évident. Plus un texte est compliqué, moins il est compris. Céline Robert-Charulinder veut un chapitre en langage simplifié placé avant les messages du conseil de ville de Delémont au corps électoral. Le but est de rendre les enjeux des votations accessibles à chaque citoyen delémontain. Ce paragraphe en langage simplifié devra respecter certaines règles. Phrases courtes, mots simples, nombres en chiffres et noms en lettres. Tout cela en gros caractères et avec une police d'écriture basique. La partie en FALC pourrait remplacer ou compléter le chapitre « L'essentiel en bref ». Ce dernier vulgarise le message, mais la membre de l'alternative de gauche propose d'aller encore plus loin pour que chaque Delémontain puisse voter en toute connaissance de cause.
Selon les chiffres de l'Office fédéral de la statistique repris dans la motion, 800 000 personnes éprouvent des difficultés à lire et à comprendre un texte en Suisse. Les actions de partage à l'occasion de Noël retrouvent leur rythme de croisière dans la région après 2 années compliquées par la pandémie. Le Noël de l'amitié de Delémont se tiendra le 24 décembre dès 17h30 à la salle Saint-Georges. Le Noël pour tous de Porrentruy aura lieu dès 18h à la salle du séminaire et celui de Moutier également dès 18h à la sociétale. La manifestation prévotoise se déroulera sous sa forme traditionnelle avec un repas de gala offert à celles et ceux qui souhaitent vivre Noël autrement, de manière solidaire. La magie a été choisie comme thème avec la présence annoncée d'Éric Roumestan, un magicien de renommée internationale. À quelques semaines du jour J, le comité de Noël pour tous prévotois se réjouit, entre autres sentiments, le responsable animation Claude Mélan.
On est aussi très impatients et très curieux, un peu fébrile, de savoir combien de gens vont venir, comment ça reprend. On a vu que ça pouvait reprendre très fort des fois, les gens ils sont avides de ce genre d'événement. Donc voilà, on a plein d'attentes et on se réjouit beaucoup. En tout cas, cette édition, on en est très fiers. Et quoi qu'il arrive, on sera très contents de la faire.
Il a fallu trouver une thématique pour cette édition retour, on va dire. Vous avez choisi la magie, pourquoi ?
On est parti un peu sur les mots magie. On veut rallumer le sapin, on veut rallumer la magie de Noël parce qu'elle s'est presque éteinte pendant un moment, ou en tout cas elle s'est nucléarisée. Puis nous, on voulait refaire une fête collective avec tout le monde qui vient, donc restaurer cette magie d'être ensemble. De fil en aiguille, on s'est dit oui, mais la magie de voir de l'illusion, de voir des choses qui sont incroyables, c'est quelque chose qui nous rassemble vraiment et qu'on peut très bien lier à une magie plus traditionnelle, plus classique, la magie du Père Noël, la magie du sapin, la magie du manger ensemble et d'être juste bien convivialement.
L'hiver approche et les amateurs de glisse sont dans les starting blocks. En Suisse, environ 35% de la population pratique le ski, ce qui en fait l'un des pays à la plus forte concentration de skieurs. Une pratique qui apporte son lot de plaisir et d'adrénaline, mais qui cause chaque année de nombreux accidents sur les pistes. Les données montrent une tendance à la hausse au fil des ans, ce qui ne cesse de faire grimper la facture. HelloSafe s'est penché sur ces chiffres. François Comte.
Selon le cabinet de comparaison de produits financiers, les coûts liés aux accidents de ski devraient s'élever à près de 285 millions de francs en Suisse en 2022. Le chiffre représente une hausse de 5,8% par rapport à l'an dernier. Les snowboardeurs, de leur côté, ont occasionné des frais estimés à un peu plus de 63 millions de francs, soit 4,9% de plus qu'en 2021. Les dernières informations fournies par la SUVA pour l'année 2020 montrent que les cantons du Valais et des Grisons comptabilisent chacun près d'un quart des accidents de glisse. Berne suit en troisième position avec 14%.
Et la pandémie a fortement influencé le nombre d'accidents de sport d'hiver survenus en Suisse, avec une grosse baisse entre 2019 et 2020, puis un rebond constaté entre 2020 et 2021.
RFJ, les 12h28.
Sport. Frédéric Gauthier devra passer à la caisse. Il est sanctionné par la commission de discipline de Swiss Ice Hockey. L'attaquant du HC Ajoie est puni pour avoir simulé lors du match de National League du 26 novembre contre le HC Bienne. Le Québécois devra s'acquitter d'une amende de 2000 francs. Raheem Sterling est rentré en Angleterre. Le joueur de football anglais a manqué hier le 8e de finale contre le Sénégal. En cause, le domicile de l'attaquant qui a été cambriolé. Il est donc rentré pour rassurer sa compagne et ses deux enfants. Selon certains médias britanniques, Raheem Sterling pourrait rejoindre les Three Lions pour le quart de finale contre la France, fixé samedi, et retrouver toute l'actualité en lien avec le Mondial au Qatar dans notre journal de la Coupe du Monde à 18h30. C'est la fin de cette édition. Bel après-midi.